Il est 22h, vous écoutez Europe 1. C'est l'heure du journal, Lénaïque Monnier.
Pour avancer, il suffit de frotter, comme si on avait un chewing-gum sous le pied. Ça permet d'avancer. Ça va, j'y arrive assez bien pour une première fois.
Alors qu'hier, vous avez ouvert vos paquets, aujourd'hui et surtout les plus jeunes ont essayé leur nouveau jouet. Mais pour certains, le Père Noël s'est trompé. Comme chaque année, la revente sur Internet n'a pas traîné. Dans ce journal également, le message du pape François à ses fidèles à la mi-journée et celui de la reine Elisabeth à ses sujets.
La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et cette année a même été pleine de turbulences.
Nous parlerons aussi de Ségolène Royal. A-t-elle utilisé sa fonction d'ambassadrice des pôles pour promouvoir ses activités professionnelles ? Deux députés veulent l'entendre à ce sujet. Pas de bourse ce soir, elles sont fermées, mais, et c'est comme ça pendant toutes les vacances, l'interview culture de Sébastien Krebs qui reçoit ce soir Jamy. Et puis vos prévisions météo pour demain, ce sera avec Marlène Duré.
Europe 1. Lénaïque Monnier.
C'est tous les ans un petit peu la même chose à Noël. Les enfants ouvrent leurs paquets et même si on est un peu fatigué le lendemain du réveillon, il faut vite tester ces nouveaux jouets. Ça peut aller du bateau de pirate à monter, du vélo rouge à essayer au parc d'à côté. Sophie Echen est allée à la rencontre de ceux qui ont été gâtés.
On appuie sur un bouton et on entend ce que l'autre dit.
Sur l'esplanade du parc André Citroën, Roxane, 10 ans, essaye ses tout nouveaux talkie-walkie avec sa sœur placée à quelques dizaines de mètres de là.
Là, on le teste pour voir jusqu'où il peut aller le réseau pour écouter.
Donc là, tu peux faire un test avec ta sœur. Tu peux lui dire bonjour, par exemple.
Oui. Allô.
Oui. Je t'entends très bien.
C'est un vrai outil d'agent secret, ça.
Ouais.
Un peu plus loin et peut-être un peu plus casse-cou, Odysseas se déplace sur une sorte de planche à deux roues, fraîchement trouvée au pied du sapin. Ce n'est pas un skate, mais un waveboard, explique l'adolescent.
Comme la vague en anglais. Ouais. Pour avancer, il suffit de frotter, comme si on avait un chewing-gum sous le pied. Ça permet d'avancer. Ça va, j'y arrive assez bien pour une première fois.
Il faut dire que cette journée était parfaite pour essayer ses cadeaux en plein air. Christine, elle, a eu une superbe veste technique. Très sportive, elle n'a pas pu s'empêcher de l'enfiler avant d'aller faire un tour.
J'ai essayé en courant le long de la Seine, c'est-à-dire de Citroën jusqu'à la Tour Eiffel. C'était idéal pour la porter aujourd'hui parce qu'il fait pas très chaud. Il y a un peu de vent, bon, il pleut pas.
Et si la plupart se précipitent d'essayer leurs cadeaux aujourd'hui, il y aura comme chaque année des déçus et des babioles qui finiront au fond d'un placard.
Parce que là, manifestement, ça allait. Mais il y a aussi effectivement les cadeaux qui tombent complètement à côté de la plaque. La couleur du pull, le livre que l'on a déjà, le parfum que tout simplement on n'aime pas. Bref, après les remerciements d'usage, on n'a qu'une hâte, c'est de s'en débarrasser. Et vous savez comment ça se passe dans ces cas-là, on mise sur Internet. Angèle Châtelier, de plus en plus de Français revendent leurs cadeaux quelques heures à peine après la fin du repas.
Oh, merci pour ce cadeau. Vraiment, fallait pas. Parce que les cadeaux sont parfois de mauvais goût ou qu'on les reçoit en double ou en triple. Pourquoi ne pas les revendre illico presto? C'est ce qu'a fait Jonathan qui, une heure après l'avoir reçu, a mis en vente la manette de jeu que lui a offert son frère.
Mais c'est l'acteur. Oh, merci, oh, t'es trop gentil, tout ça. Mais en vrai, je me suis dit, je vais pouvoir gratter un petit peu d'argent.
Nicolas, lui, revend discrètement le sécateur que sa femme vient de lui offrir.
J'ai fait semblant, quoi, enfin, on va dire. Hein, j'en ai pas du tout l'utilité.
Et elle le sait?
Ah non, pas du tout, non.
Bon, elle ne saura pas, on dira rien.
Oh bah non.
Ne rien dire pour ne pas se faire prendre et devoir se justifier. Mais au moins, si vous avez besoin de cadeaux de dernière minute, la plupart des objets en ligne aujourd'hui ont la mention « jamais servi » ou encore « sous emballage ». On y verrait presque que du feu.
Angèle Châtelier pour Europe 1 et d'ailleurs à la mi-journée, une plateforme de revente comptait plus de 500 000 annonces déposées. C'est 200 000 de plus que l'hiver passé. La bénédiction Urbi et Orbi, la 7e du pape François à Saint-Pierre de Rome ce midi. Le souverain pontife a livré à ses fidèles et au monde entier son message. Blandine Hugonnet, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Rome. Message très universel cette année encore.
Oui, comme c'est la tradition dans ce message, le pape a voulu évoquer les situations qui ont besoin de paix. C'est le cas de la Syrie. Le chef de l'Église catholique s'est aussi exprimé en tant que chef d'État pour s'adresser directement aux responsables politiques.
Que Jésus soit le réconfort du bien-aimé peuple syrien qui ne voit pas encore la fin des hostilités qui ont déchiré le pays en cette décennie. qu'il inspire les gouvernants et la communauté internationale à trouver des solutions qui mettent fin à leurs souffrances.
Au Moyen-Orient, avec le Liban et l'Irak, mais aussi en Amérique latine, des révoltes populaires ont éclaté ces dernières semaines. Pour ces régions, le pontife argentin a demandé soutien et espérance. Le pape, qui s'est montré aussi préoccupé par les situations des migrants, il a notamment dénoncé les injustices qui les obligent à traverser des déserts et des mers transformés en cimetières pour être refoulés par des murs d'indifférence. Sur la place Saint-Pierre tout à l'heure, ensoleillée, en ce jour de Noël, a conclu François, c'est la lumière de Jésus qui doit illuminer tous ces ténèbres.
Blandine Hugonnet, correspondante d'Europe 1 à Rome. Elle n'en est pas à son septième discours, c'est un tout petit peu plus. La reine Elisabeth a parlé à ses sujets dans une allocution de près d'une heure. C'était enregistré au préalable. Johanna Chabas, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. On le rappelle, la souveraine a eu une année difficile. Et si son discours doit être apolitique, on a quand même pu lire entre les lignes.
Et oui, pendant un peu moins de 10 minutes, la reine s'est adressée aux Britanniques en gardant un visage impassible face à la caméra. Elle n'a pas le droit de faire de la politique, donc tout est dit par allusion. Entre son fils, le prince Andrew, critiqué pour son amitié avec le pédophile Jeffrey Epstein, et son pays déchiré par le Brexit et les élections, 2019 a été difficile pour la reine. Dans son discours, elle a essayé de rassembler ses sujets.
La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et cette année a même été pleine de turbulences. Des choses heureuses peuvent arriver quand on met nos différences de côté pour se rassembler dans un esprit de réconciliation. Des petits pas pleins d'espoir peuvent nous permettre de dépasser des divisions bien ancrées pour amener de l'harmonie et de la compréhension. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël.
Dans son allocution, Elisabeth II a quand même rappelé sa joie après la naissance d'Archie, le fils du prince Harry et de la princesse Meghan. Et la reine a également évoqué les commémorations des 75 ans du débarquement. Un symbole, selon elle, des capacités des peuples européens à se rassembler après des années de conflit.
Merci Johanna Chabas, correspondante d'Europe 1 à Londres.
Europe 1, le journal de la nuit.
Lénaïque Monnier. Toujours des complications dans les transports demain. Cela fera 22 jours que la grève contre la réforme des retraites a débuté. 50% des TGV seront en circulation. Un Transilien sur 5, 4 TER sur 10, un Intercité sur 4. Tous les trains ouverts à la réservation jusqu'au 29 décembre inclus sont garantis de circuler. Et pour les Parisiens, ce sera un tout petit peu mieux du côté du métro où seules 5 lignes resteront fermées. La CGT Chimie, elle, appelle à multiplier les blocages de ses raffineries de pétrole et promet des difficultés d'approvisionnement dans peu de temps. Le gouvernement assure qu'il n'y aura pas de pénurie. Et c'est dans ce contexte que les vacances d'Elisabeth Borne au Maroc font polémique. La ministre de la Transition écologique et solidaire y séjourne en famille. Emmanuel Macron l'avait pourtant garanti. Il n'y aura pas de trêve pour le gouvernement pour les fêtes de fin d'année. Le chef de l'État, qui après avoir réveillonné à la lanterne à Versailles, lui a rejoint le fort de Brégançon dans la journée. Autre polémique autour de Ségolène Royal. Cette fois-ci, deux députés lui demandent des comptes. L'ex-candidate socialiste à la présidentielle va bientôt être auditionné par la mission d'information de l'Assemblée nationale et par la Commission des affaires étrangères. Elle est accusée de s'être servie de sa fonction d'ambassadrice des pôles pour promouvoir ses activités politiques personnelles. Écoutez la réaction de Jean-Christophe Lagarde, le président du groupe UDI à l'Assemblée.
Mais on a évidemment des questions à lui poser. Vos confrères de Radio France ont indiqué qu'elle n'était jamais présente là où elle est censée représenter la France. Elle est ambassadrice, donc représentante de la France. Et si les Français ne savent pas l'importance que ça a, les pôles, le pôle Sud, le pôle Nord, sont des enjeux énormes. Énormes pour l'environnement et énormes pour l'économie. On peut produire là-bas des énergies renouvelables qui viennent remplacer les énergies carbonées tout en respectant l'environnement. Les Russes, les Norvégiens, les Islandais s'intéressent à ce qui se passe dans le pôle Nord. Il y a donc besoin que la France soit représentée. On nous dit qu'elle n'y est pas. Alors si elle n'y est pas, elle doit venir devant la représentation nationale, expliquer son activité, ce qu'elle fait. On a mis 3 fonctionnaires à sa disposition pour pouvoir travailler sur ces sujets. 100 000 euros de représentation, 2,5 fois plus que Michel Rocard. La moindre des choses, c'est qu'on sache si, dans ces deux régions du monde très importantes, la France est représentée, a une politique. Bref, si nos intérêts et notre vision économique et écologique des pôles est défendue.
Jean-Christophe Lagarde, invité du Grand Journal sur Europe 1 ce soir au micro de Sébastien Krebs. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pour faire ses courses le jour de Noël ou le 31 décembre, ce sera possible dans une centaine de supermarchés casinos. Mais les syndicats sont vent debout. Aujourd'hui, 100 supermarchés et 18 hypermarchés ont ouvert leurs portes. Pas de personnel, mais des caisses automatiques. Mais ça ne passe pas du tout, Olivier Samin.
Non, pas plus que ça n'était passé au mois d'août dernier quand, souvenez-vous, Casino avait décidé d'ouvrir pour la première fois un hypermarché le dimanche après-midi, l'hypermarché géant Casino d'Angers. L'ouverture aujourd'hui, jour de Noël, et dans une semaine, le 1er de l'an, relance la polémique. D'abord parce que ce sont des jours de fête, ensuite parce que l'opération se déploie à grande échelle, 118 magasins à travers toute la France. Pour la déléguée FO de Casino, Laurence Gilardeau, cette initiative de l'enseigne illustre sa volonté de ne pas s'arrêter en chemin, de continuer à dérouler son modèle de magasin fonctionnant sans personnel.
C'est pas trop le jour de fête qui est préoccupant là. C'est qu'ils peuvent ouvrir grâce à des robots. Et ce que nous craignons surtout pour demain, pour après-demain, c'est la disparition des métiers des hôtes et des hôtesses de caisse.
Voilà, vous l'avez compris, la crainte des syndicats, c'est que le dimanche et les jours fériés soient dans les faits un laboratoire et que, une fois que le système aura été bien rodé, et avec 118 magasins, c'est un sacré rodage, l'enseigne Casino cherchera à étendre la formule au jour de la semaine. Le groupe assure que ce n'est pas l'objectif, que le but est simplement d'offrir un prolongement aux consommateurs en dehors des heures et des jours d'ouverture classique pour contrer le commerce en ligne qui, lui, fait son business 24 heures sur 24, 365 jours par an.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Cette histoire à présent qui se passe en Espagne, une présentatrice télé a littéralement hurlé de joie en plein direct, persuadée d'avoir gagné au loto, sauf qu'en fait, Henri de la Guérie, elle avait mis la charrue avant les bœufs.
Oui, chaque année, on assiste aux mêmes scènes de liesse. À peine terminé le tirage au sort, les bouchons de champagne sautent et les gagnants laissent éclater leur joie devant les caméras. Les télés sont en direct toute la journée devant les bars et les administrations espagnoles qui vendent les tickets de cette loterie. Les heureux vainqueurs expliquent qu'ils pourront ainsi rembourser un prêt immobilier, s'offrir une nouvelle voiture ou partir en voyage. Dimanche, pourtant, c'est une journaliste de la télévision publique qui, à l'antenne, ivre de joie, a expliqué qu'elle avait gagné 50 000 euros devant des millions de téléspectateurs. Natalia Escudero a abandonné sa réserve journalistique.
Demain, je viens pas. Demain, Natalia, je ne travaille pas.
En studio, les présentateurs semblaient un peu surpris. Rapidement, la scène de joie a fait le tour des réseaux sociaux. Certains critiquant son manque de réserve, d'autres saluant une réaction sympathique et spontanée. Malheureusement, la joie de Natalia n'aura duré que quelques heures. En fin de journée, elle se rend compte qu'elle n'a pas gagné 50 000, mais 5 000 euros. Un joli cadeau de Noël, certes, mais une somme insuffisante pour arrêter de travailler. La journaliste a présenté ses excuses sur Twitter. Elle a expliqué que c'est l'émotion qui l'avait induit en erreur.
Henri de la Guérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne. À l'étranger, toujours, le président turc s'est rendu en Tunisie pour la première fois. Recep Erdogan a rencontré son homologue tunisien, Kais Saied, visite surprise du chef de l'État turc. Tous deux ont évoqué le conflit en Libye. Dernièrement, des tensions régionales avaient été suscitées par un rapprochement entre la Turquie et le gouvernement libyen d'Union. La Tunisie partage une longue frontière avec la Libye. Le pays accueille des milliers de Libyens depuis la chute de Kadhafi en 2011. Et puis quelques 200 migrants secourus aujourd'hui par les gardes-côtes espagnols. Les naufragés avaient pris la mer depuis l'Afrique à bord d'une embarcation de fortune. Cette année, au moins 1246 migrants sont morts tentant de traverser la Méditerranée. Chiffre publié par l'Organisation internationale pour les migrations, qui est affiliée à l'ONU. La culture, il n'y a jamais eu autant de spectateurs dans les salles de cinéma depuis pratiquement 10 ans. Entre 210 et 215 millions de tickets ont été vendus cette année. Les chiffres définitifs seront connus dans les prochains jours, mais c'est un très bon résultat qui cache tout de même quelques points noirs, Mathieu Charrier.
215 millions d'entrées, c'est le deuxième meilleur score de ces 50 dernières années en France. Et surtout, cela fait 6 ans maintenant que la barre symbolique des 200 millions de tickets vendus est dépassée chaque année. Donc les Français continuent d'aller dans les salles, en masse même. Mais ce chiffre cache quand même des points inquiétants. D'abord, la part des films français tombe à près de 30% seulement, alors qu'elle était à 50% il y a quelques années. Sur les 20 films qui ont fait le plus d'entrées dans notre pays cette année, 16 sont américains, plus des trois quarts. Autre constat inquiétant, les jeunes vont moins au cinéma, tenter de rester chez eux, consommer des films ou séries sur les plateformes de vidéo à la demande. Au début des années 2000, par exemple, les 20-25 ans allaient voir en moyenne 8 films chaque année. Aujourd'hui, c'est deux fois moins. L'une des raisons, c'est peut-être aussi le prix des places qui augmente pour amortir des cinémas qui ont pour beaucoup été modernisés, même si le prix moyen d'un ticket de cinéma en France reste inférieur à 7 euros.
Mathieu Charrier pour Europe 1. La compositrice américaine Ali Willis est décédée à l'âge de 72 ans. Elle avait marqué toute une génération en composant le générique de Friends, série culte évidemment, joué par les Rembrandts. Écoutez, ça vous dit sans doute quelque chose. pas la série culte des années, la fin des années 90, et Ali Willis, qui n'avait pas fait que ça tout au long de sa carrière, elle avait aussi remporté en 1985 un Grammy Award pour un film, Le Flic de Beverly Hills, dont on connaît également la musique. Un petit coup d'œil à présent sur la météo avec vous, Marlène Duré. Frais le matin, nuageux dans la journée, le footing detox va attendre un petit peu.
En effet, Lénaïque, le temps sera globalement bien nuageux sur l'ensemble du pays demain matin. Seul un petit quart sud-est conservera un ciel plus dégagé, devenant quand même un peu plus variable en journée. Ce qu'il faut retenir, ce sont les nombreuses plaques de grisaille et les brouillards, parfois lents à se dissiper, qu'on va retrouver le long de la Garonne et dans le Val-de-Saône. Et puis il y a cette petite perturbation, faiblement pluvieuse, qui va circuler du nord de la Bretagne à la Champagne et à la Bourgogne, en passant par les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Elle gagnera en fin de journée tout le Grand Est. Sur la moitié sud du pays, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies l'après-midi, les nuages étant plus nombreux dans le massif central. Et puis enfin, une belle journée ensoleillée pour la Corse. Du côté des températures, c'est le retour des gelées au lever du jour, jusqu'à moins 2 dans l'Est. Elle s'annonce quand même plus sévère en montagne. Et puis en journée, l'après-midi prévoyait un minimum de 6 degrés à Strasbourg, 9 à Grenoble, 11 à Paris, 12 à Limoges, 15 à Agen et jusqu'à 19 degrés à Perpignan.
C'était la météo signée Marlène Duré. Europe 1. Dans un instant, l'invité culture de Sébastien Krebs, son invité c'est Jamy Gourmaud. On vous donnera entre autres des bons plans pour les expos sciences en famille. À tout de suite. Europe 1. Et à 22h17 sur Europe 1, pas d'écho hein, pendant les vacances, mais l'invité culture de Sébastien Krebs qui reçoit aujourd'hui Jamy Gourmaud pour nous donner quelques bons plans par exemple d'expos sciences en famille.
Bonsoir Jamy Gourmaud.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous en ce soir de Noël. Vous reconnaissez forcément ce générique qui vous a accompagné et qui nous a aussi accompagné. C'est pas sorcier, le fameux magazine des sciences, c'était sur France 3. Ça a duré combien de temps ?
Ça a duré presque 20 ans, effectivement, je m'en souviens, ça me réveille un peu ce soir.
C'est pas sorcier, on vous retrouve aujourd'hui dans le monde de Jamy, c'est toujours sur France 3. Je salue aussi Laure d'Autriche, notre spécialiste bonsoir. Scientifique qui nous a rejoint. Bonsoir Laure. Jamy Gourmaud, vous sortez ce livre, tu l'as dit Jamy, une aventure scientifique en BD, c'est chez Stock, donc avec des dessins signés Leslie Play. Donc on explique toujours les sciences, on est toujours dans la vulgarisation, ça s'adresse à des enfants de quel âge ?
En fait, je ne m'adresse pas nécessairement à des enfants, je m'adresse plutôt à des profanes. Mmh. Et à s'adresser à un enfant, c'est compliqué, parce que s'il a 4 ans, 8 ans, 12 ans, on ne lui parle pas de la même manière. En revanche, quand on s'adresse à un profane, eh bien, le profane, il a de 7 à 77 ans.
Et donc, on explique dans ce livre toutes sortes de choses qui sont vraiment de l'ordre du quotidien. Hein. C'est le moteur de la voiture, le télescope, la montgolfière, les fleuves, les fusées. Il y a toutes sortes de choses.
Il y a tout cela, mais tout cela à travers une aventure. C'est-à-dire que c'est pas une encyclopédie, c'est pas un abécédaire. C'est une histoire qui démarre un petit matin. Je me réveille, j'ouvre le journal.
Oui, parce qu'on vous suit, vous êtes dessiné. On suit
Jamy. Oui, voilà. on suit mon personnage, voilà, qui est un peu moins barbu que moi aujourd'hui, voilà, mon personnage qui est accompagné de son animal de compagnie. Voilà, un drôle d'animal de compagnie.
Et qui est un poulpe.
Exactement, un poulpe.
Et qui vous pose toutes sortes de questions.
Voilà, qui me pose toutes sortes de questions, qui se lance dans des expériences, des aventures, qui est un petit peu, un peu malchanceux aussi, voilà, un peu froussard. C'est vraiment un personnage qui m'aide beaucoup justement à raconter, parce que je pense que quand on veut transmettre le modèle de l'échange, du dialogue, est vraiment très très utile.
Et c'est mieux qu'un cours de sciences nat à l'école, c'est plus efficace parce qu'on passe par le dessin, on passe par le livre.
Alors c'est très différent parce que l'objectif n'est pas le même. Moi quand j'écris ce bouquin, j'ai pas envie de faire un cours, j'ai envie d'amuser, de faire rêver, de faire voyager. L'enseignant, lui, il a d'autres objectifs. Ce ne sont pas les mêmes. Alors, bon, évidemment, les deux peuvent se concilier, mais mon objectif n'est pas du tout de faire un cours et à la fin du livre, rassurez-vous, il n'y a pas un questionnaire pour savoir ce que l'on a retenu des pages précédentes.
Transmettre, faire cette pédagogie, vulgariser la science, ça a toujours été votre fil conducteur, votre ligne directrice depuis le début, parce que vous avez commencé très jeune à créer cette émission. C'est pas sorcier, c'est toujours votre vie aujourd'hui.
c'est la science, c'est la connaissance. En fait, j'aime raconter. Et j'aime raconter les histoires de science. Parce que n'importe quel phénomène scientifique, je le dis souvent, est assez théâtral dans la mesure où si on prend la chimie, par exemple, il y a des ingrédients au départ, et puis il y a une action, une réaction même, et à la fin, le résultat n'est pas le même qu'au départ. Donc voilà, il y a tous les ingrédients de la narration. Et puis je pense aussi que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons impérativement, absolument besoin de conceptualiser certaines notions de science.
Justement, est-ce qu'en 25 ans, depuis que vous avez commencé, vous racontez la science différemment ? Est-ce que vous employez des mots différents ou est-ce qu'il y a des thèmes qui sont plus majeurs aujourd'hui que lorsque vous avez commencé ?
Alors, il y a eu une nette évolution sur le sujet de l'environnement, par exemple. Au début, quand on a fait les premiers C'est pas sorcier, on consacrait une émission à un sujet de l'environnement. Et puis, l'émission d'après, on oubliait totalement. Et puis, avec le temps, l'environnement est devenu prégnant. C'est-à-dire que c'est un sujet qui a imprégné tous les autres. Et donc, à la fin de C'est pas sorcier, et aujourd'hui, dans le monde de Jamy, c'est une constante. C'est-à-dire qu'on envisage la science, le progrès technologique, qu'à travers le prisme de l'environnement.
Et notamment les phénomènes climatiques et environnementaux. Et c'est tout l'art de...
Quand on dit environnement, c'est bien sûr bouleversement climatique.
Et météorologique. Voilà. Mais Jamy Gourmaud est avec nous ce soir. Avec Laure d'Autriche, Laure, vous avez regardé un petit peu ce qu'on peut faire en famille si on veut faire de la science avec ses enfants là, pendant les vacances.
Oui.
Il y a des choses.
Alors oui, si vous aimez les expositions scientifiques, vous avez vraiment le choix en cette période. Alors à Paris, par exemple, au Musée de l'Homme, vous avez une exposition qui porte pour titre « Je mange, donc je suis ». C'est une histoire de l'alimentation, comment finalement l'homme se définit par ce qu'il mange, comment notre corps est façonné par notre alimentation, pourquoi le fait que l'on n'aime pas certains aliments est autant inné qu'acquis, c'est ce que vous allez pouvoir découvrir au Musée de l'Homme à Paris. Au Palais de la Découverte à Paris encore, on vous parle d'amour par exemple, et d'un point de vue scientifique passionnant cette exposition, comment se lit-on à son partenaire, quel cocktail de molécules aboutit au coup de foudre par exemple. C'est une expo très ludique dédiée aux plus de 15 ans, mais même pour les enfants plus jeunes, ça peut vraiment fonctionner. On décortique les molécules qui entrent en jeu quand on est amoureux, et pour toutes les formes d'amour, vous allez découvrir que plusieurs zones s'activent de façon coordonnée dans notre cerveau, et c'est ce qu'explique Astrid Aron, la commissaire scientifique.
Il n'y a pas de zone spécifique dans le cerveau dédiée à l'amour ou à la passion ou au désir sexuel. Plusieurs zones sont impliquées. Par exemple, l'ocytocine, qui a été découverte relativement récemment, est une hormone dont on s'est rendu compte qu'elle était impliquée dans les rapports mère-enfant, dans les rapports amoureux. Elle est impliquée également dans les liens sociaux. Aucune situation ne fait intervenir une seule molécule. Pour vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas un filtre d'amour universel. On ne propose pas de révéler les mystères de l'amour, on n'aurait pas cette prétention, mais en tout cas d'en donner quelques éclairages.
Voilà, et cette exposition propose aux visiteurs des tests ludiques aussi, qui permettent de connaître notre degré d'empathie vis-à-vis des autres, et c'est donc au Palais de la Découverte. Un dernier mot pour Paris, vous pouvez aussi vous rendre au Jardin des Plantes, à la Grande Galerie de l'Évolution, pour une plongée notamment dans les océans. Exposition visible jusqu'au 5 janvier.
Et si on est ailleurs que dans Paris, en région, il y a d'autres choses.
Il y a de quoi faire. À Bordeaux, par exemple, le Muséum propose une première expo temporaire consacrée au sens du toucher. Au Muséum de Toulouse, un sujet sur les extinctions, la fin d'un monde. Une expo qui montre la fabuleuse diversité du monde vivant. Ou encore au Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord, une exposition sur la contagion dans tous les sens du terme, du virus au fou rire de la bactérie à la contagion d'une rumeur. Vous allez comprendre comment se propage ce phénomène.
Voilà, plein d'idées d'activités pour Noël. Merci beaucoup, Laure d'Autriche, Jamy Gourmaud. L'amour, on en parlait. Vous avez fait une émission, C'est pas sorcier, vous aviez fait l'amour ou pas ?
Alors, on n'avait pas fait que l'amour, on avait fait les sentiments et les émotions.
Ah, facile.
Voilà, et ce qui est passionnant dans toutes ces histoires et dans tout ce que vous décriviez, Laure, c'est la décomposition des mécanismes et ces informations, toutes ces données qu'on peut aller observer dans ces expositions. Ce qui est passionnant, c'est qu'elles s'adressent, elles ne s'adressent pas qu'aux scientifiques. Ce sont vraiment des notions, des éléments qui font partie de notre culture générale. Et moi, je milite depuis 20 ans, justement, pour que la science, la culture scientifique ait davantage de place dans ce que l'on nomme la culture générale. On a trop souvent tendance à penser que ah, le musée scientifique, il est pour les scientifiques, mais pas du tout. C'est presque même ridicule de le dire. Mmh. C'est comme si le Louvre était réservé aux sculpteurs et aux peintres. Mmh. Voilà, non, pas du tout. Et justement, il faut aller chercher ces informations, cette culture scientifique qui, à mon sens, est indispensable pour appréhender le monde dans lequel on est. Aujourd'hui, en parlant d'environnement, on donne souvent des informations. On nous demande souvent de faire des choses sous la contrainte. Je pense que si on les comprenait mieux et si on avait davantage de connaissances scientifiques, on ne les ferait pas sous la contrainte, mais par réflexe.
Mais finalement, les sciences passionnent à tous les âges. Et ça commence par les questions les plus basiques des enfants. Pourquoi
voilà, à laquelle les adultes, d'ailleurs, sont bien embêtés pour répondre. Voilà.
Et voilà. Et grâce à vous, en tout cas, c'est peut-être plus facile de leur expliquer. Le monde de Jamy à la télévision, ça va continuer sur France 3 ?
Bien sûr, ça va continuer. On reprend ce début d'année. Je ne peux pas vous donner encore la date, mais on parlera de froid, on parlera de chaud, on parlera aussi du langage des animaux au cours de l'année 2020.
Voilà, les animaux et les sciences avec Jamy Gourmaud. On était ravis de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup d'être venu sur Europe 1. Très joyeux Noël à vous. Et d'ailleurs, si le Père Noël peut encore se rattraper, voilà, je signale à nouveau votre livre. Donc, tu l'as dit, Jamy, aventure scientifique en bande dessinée avec les illustrations de Leslie Play, c'est chez Stock. Merci beaucoup.
Merci Sébastien.
Merci à Laure de Friche.
Merci.
Europe 1, le journal de la nuit.
Lénaïque Monnier.
Et à 22h27, on jette un œil sur les unes des journaux que vous pourrez lire demain avec La Croix, tout d'abord, qui consacre sa une au Burkina Faso, endeuillé après un attentat qui a fait des dizaines de morts hier. Sous la plume de notre confrère Guillaume Goubert, on peut lire que cette journée est passée des ténèbres à la lumière. Et cette question, que pèse la lumière de Noël face aux ténèbres du monde ? Y a-t-il une réponse d'ailleurs ? On peut en douter, à en croire l'édito du quotidien, tant, je cite, on voit l'incompréhension, le cynisme, la haine, la violence qui semblent s'étendre un peu plus chaque jour. Et de rappeler qu'à quelques heures de la nativité, cette attaque terroriste au Burkina Faso a fait aussi des blessés chez beaucoup de civils et des militaires engagés. Le Figaro qui, justement, s'intéresse demain au catholicisme, qui est en quête de renouveau, titre le journal. Après une année noire marquée par les scandales d'abus sexuels et aussi, dans une moindre mesure, l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'Église de France veut retrouver la confiance des fidèles en 2020. Tout autre chose, l'opinion de son côté revient sur les jeunes pousses de la politique qui ont fait l'actualité de l'année. Un bilan, Jordan Bardella pour le Rassemblement National, Adrien Quatennens pour la France Insoumise ou la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. 2 ans après la vague de dégagisme, une génération a donc émergé. Leur portrait est affiché à la une du journal. 20 ans après, Libération se souvient de la tempête qui avait traversé le pays. Elle avait marqué par son ampleur 50 000 mètres cubes de bois étaient tombés. Mais la vie a repris le dessus. 20 ans après, les forêts et les bois décimés ont su se régénérer, nous raconte Libé. Une forme de résilience, nous raconte dans son édito Laurent Geoffrin. Le Journal du Centre, Centre Presse et le Dauphiné Libéré se souviennent également de la tempête du siècle, mais surtout, dans leurs dossiers respectifs, évoquent les leçons à retenir 20 ans donc après la tempête de 99. Le Parisien, aujourd'hui en France, se demande de son côté s'il faut ou non interdire dans les cirques les animaux. De plus en plus de communes interdisent les spectacles qui mettent en scène éléphants et autres lions en cage le jour et sous les feux de la rampe. Lorsque le show commence, le journal a demandé au public, aux fans de cirque, leur avis sur le sujet. Voici donc pour le tour d'horizon de ces unes de vos journaux à découvrir demain dans tous vos kiosques.